Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la France a-t-elle son mot à dire sur l'Algérie ? Il y retourne, mais il ne fera que passer. Abdelaziz Bouteflika est donc officiellement candidat pour un cinquième mandat à la tête de l'Algérie, mais pas pour un cinquième quinquennat. Il promet de se retirer avant le terme de son ultime mandat, non sans avoir au préalable, dit-il, mené les réformes nécessaires pour un nouveau système. Or, il n'est pas dit que les dizaines de milliers d'Algériens qui manifestent depuis la mi-février se laissent convaincre par les promesses de leur président, qui fêtait avant-hier ses 82 ans. Le mouvement de protestation a déjà pris une telle ampleur, il dépasse le simple refus d'une nouvelle candidature Bouteflika, si bien que, comme souvent, les réponses politiques ont un temps de retard sur les revendications. À Paris, à l'Élysée comme au Quai d'Orsay, on observe cette mobilisation, si ce n'est dans le silence, en tout cas avec une extrême prudence. L'histoire entre les deux pays est telle que la France marche sur des œufs dès qu'il est question de l'Algérie. Comme le résume le politologue Naoufel Brahimi El-Mili dans un entretien à France Info, si la France soutient la rue, ce sera de l'ingérence. Si la France soutient le pouvoir, c'est la main de l'étranger. Dans les deux cas, la France ne peut que produire un silence assourdissant. Alors la France a-t-elle son mot à dire sur l'Algérie ? Bien, on en discute ce soir en compagnie de trois invités. Cheryl Lalami-Fatès, bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'Algérie, chercheuse de GRESCO, le groupe de recherche sociologique sur les sociétés contemporaines qui dépend de l'université de Poitiers. Pour discuter avec vous, Kader Abderrahim, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Et puis troisième invité, Jean-Pierre Sérigny, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Lorient 21, je renvoie à votre dernier article publié ce jour, Algérie, la rue contre le régime. Et je précise que vous êtes l'ancien directeur du Nouvel Économiste. Alors avant d'évoquer les positions de la France et notamment ce qu'a pu dire le Quai d'Orsay dans un communiqué tout à fait récent sur ce qui se passe en Algérie. J'aimerais d'abord faire un premier tour de table par rapport à cette décision à la fois d'Abdelaziz Bouteflika de se présenter pour un cinquième mandat tout en disant qu'il n'irait pas jusqu'au bout de ce mandat, qu'il voulait simplement se représenter le temps de changer le système. Est-ce que vous considérez, Feryal Lalami-Fatès, qu'à travers cette déclaration d'intention, le pouvoir algérien a pris la mesure de ce qui se passait dans le pays ?
C'est malgré tout une concession. Bien sûr, il ne répond pas du tout à la demande de la rue. La lettre précise que la lettre de candidature qui accompagne sa candidature précise que il exercera sa fonction de président, mais que dans ce temps-là, il va organiser une conférence nationale où il va inclusive, dit-il, dans laquelle il va donc réunir les forces politiques. J'imagine tous les partis et les acteurs principaux de la société civile, les syndicats et autres.
C'est une concession pour vous que de le dire ou ce sera une concession s'il le fait véritablement ?
Non, la concession, c'est il y a plusieurs ordres de concession. En fait, c'est presque comme un dialogue de sourds. C'est un discours dont l'esprit est « je vous ai compris ». D'ailleurs, il fait référence au mouvement populaire de ces derniers jours dans cette lettre, très clairement, en disant « j'ai compris et d'ailleurs je vais répondre à votre demande. Je suis candidat parce que j'ai encore des choses à réaliser. Je vais dès le début de ce quinquennat qui est le cinquième en fait, mais par rapport à un jeu constitutionnel, c'est le deuxième. Je vais organiser cette conférence nationale dans laquelle on va tout mettre sur la table, y compris ce qui est une demande émergente actuellement dans les forces politiques, celle d'une constituante que lui appelle une nouvelle constitution. Donc, il aborde aussi les problèmes qui ont été soulevés par la rue très fortement dès la première manifestation le 22 février, celui de la corruption.
Donc, vous évoquez, en tout cas, vous parlez de concession, même si c'est une concession qui n'est pas suffisante. Est-ce que vous diriez la même chose qu'Ader Abderrahim ?
Ce grand débat à la sauce Bouteflika est très largement en deçà des attentes de la population, primo, et secondo, c'est un peu toujours la même chose avec les hommes politiques. On se demande pourquoi ils ne font pas les choses quand ils sont en état de les faire et en possession de leurs moyens. Là, le président est affaibli, empêché par la maladie d'assumer les charges de sa fonction. On voit pas ce que un an de plus apporterait. Et on ne sait absolument pas, ni lui ni personne, même si personne ne lui souhaite évidemment, s'il vivra encore un an. Donc ça fait quand même beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes sur une perspective à très court terme. Et puis qu'est-ce que c'est que cette conférence nationale dans laquelle, il y en a eu d'autres hein, en Algérie, dans laquelle évidemment on vient pour parler de tout, mais où les choses se décident en réalité dans un petit cénacle, comme c'est l'usage en Algérie. Donc je suis plus que sceptique et on se demande plutôt pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas à l'Algérie une sortie avec une transition en douceur. Et de toute manière, il n'y a pas grand risque actuellement pour le régime parce qu'il n'y a pas d'alternative à quelque chose qui se négocierait dans le cénacle du pouvoir.
Jean-Pierre Sérigny.
Oui, ça ressemble quand même beaucoup à une manœuvre pour gagner du temps. Oui. Si on regarde la lettre d'hier, on s'aperçoit que le président ne prend pas d'engagement sur quand se passera la prochaine élection. Mais par contre, son directeur de cabinet, quand il a annoncé hier sa candidature, a dit que ça serait dans un an. Donc là, déjà, on voit qu'il y a une petite habileté qui fait préjuger quand même d'un manque de, comment dire, je dirais pas d'honnêteté, mais disons de perspicacité dans la suite des événements. Alors, évidemment, ça peut fonctionner un temps, il peut gagner quelques jours, mais je crois que ça va pas suffire à calmer l'opinion algérienne.
Alors venons-en au sujet de ce soir, qui est la position de la France par rapport à cette crise algérienne et un communiqué du Quai d'Orsay qui a été publié aujourd'hui, qui dit ceci, c'est assez court, c'est assez clair, vous me direz si c'est convaincant. Nous avons pris note de la candidature du président Bouteflika. Nous souhaitons que l'élection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions. C'est au peuple algérien qu'il appartient de choisir ses dirigeants et de décider de son avenir. Ça semble difficile de faire plus neutre, disons, Kader Abderrahim.
Oui, ça ressemble quasiment mot pour mot à ce qu'avait dit le porte-parole du gouvernement la semaine, quelques jours plus tôt, jeudi dernier, je crois bien. C'est très compliqué parce que si la France se tait, elle est accusée au mieux de complaisance, au pire de complicité. Si elle parle, c'est l'inévitable accusation d'ingérence, donc c'est toujours la quadrature du cercle. Je pense que dans ce genre de situation, pour autant que je sache, ce qui fonctionne le mieux, c'est les canaux discrets, notamment les canaux diplomatiques par lesquels on peut faire passer des messages qui soient un peu plus clairs et peut-être parfois un peu plus fermes sur les principes. Mais dire si aujourd'hui la France a les moyens de peser sur le cours des événements, c'est peut-être aller un peu vite. Je suis pas certain, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont émergé en Algérie et dans la région, mais pour la... En tout cas, la France reste effectivement un partenaire important dans cette région du monde, oui. Singulièrement pour l'Algérie.
Dans ce communiqué du Quai d'Orsay, Feriel Alami Fatès, vous ne voyez aucun message non plus, c'est-à-dire c'est du pur langage diplomatique, mais qui ne sert pas à grand-chose.
Oui, absolument. Et puis de toute façon, je crois que c'est la seule attitude à avoir. C'est le discours neutre qu'il faut tenir dans les circonstances actuelles et dans toutes les circonstances. On sait très bien que l'Algérie, en tant qu'État, a une doctrine qu'elle professe aussi bien au plan diplomatique que dans l'usage politique, c'est celle de la non-ingérence. Donc, tout autre discours serait contre-productif, c'est-à-dire que contre-productif pour les manifestants, si jamais la France les soutenait, le régime aussitôt déploierait le discours de la main de l'étranger. Hein. Et d'ailleurs, dans la fameuse lettre de candidature de Bouteflika, il parle de forces occultes, etc. On ne sait jamais bien qui c'est, si elles sont internes ou extérieures. Mais en tout cas, c'est le seul discours à tenir, même si on sait très bien que la France a de fortes inquiétudes par rapport à la situation en Algérie et qu'elle ne peut pas exprimer publiquement sous peine de créer des remous malvenus.
Est-ce qu'on n'est pas dans la pure hypocrisie, là, Jean-Pierre Sérigny ?
Si vous voulez, il n'y a ni ingérence ni indifférence. Donc la position est difficile à tenir, mais il faut bien voir que la politique algérienne se fait à Alger. C'est le régime qui décide et c'est eux seuls. Ils tiennent compte, évidemment, des positions des différents pays, mais la décision est indigène. Et d'autre part, on n'est pas dans une situation où l'Algérie a besoin d'argent. Elle a 80 milliards de dollars de réserves, donc elle peut tenir encore un moment. Et donc, on n'a pas de circonstances qui permettent à la France ou à la communauté internationale de peser dans le débat algérien.
Est-ce qu'émettre un doute quand même sur le fait qu'on a un président qui s'apprête, donc Abdelaziz Bouteflika, à faire son cinquième mandat, qui est dans un état de santé extrêmement précaire, qui vient de fêter ses 82 ans, est-ce que ça n'aurait pas mérité quand même, éventuellement, si ce n'est une prise de position un peu claire, enfin en tout cas, émettre le fait d'émettre des doutes. D'ailleurs, je crois qu'il y a un ancien ambassadeur qui l'a fait, hein, Jean-Pierre Sereny.
Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, l'ambassadeur, il est intervenu...
Donc c'est Bernard Bajolet, ancien ambassadeur de France à Alger.
Et ancien directeur de la DGSE, donc une personne qui, normalement, sait de quoi elle parle. Et il a dit en septembre, alors qu'il sortait son livre, ce qui n'était pas dans son livre, dans le Figaro, que, effectivement, le président Bouteflika n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions. Donc ça, c'était un message clair pour le pouvoir algérien. Il en a visiblement tenu aucun compte, et donc ça montre les limites de l'influence française en Algérie.
Est-ce qu'on peut juste imaginer que ce message-là, c'était pas uniquement une initiative individuelle de la part de l'ancien ambassadeur ?
Quand on connaît un peu le personnage, ça paraît peu probable.
Kader Abderrahim ?
Je sais pas si c'était une initiative personnelle ou pas, mais c'est compliqué là aussi, parce que ça signifie que la France adopte une position de principe sur tous les dossiers et pour tous les États. Or,
dans certains cas.
Ça arrive dans certains cas. On l'entend beaucoup absolument sur le Venezuela, mais là, les intérêts sont peut-être un peu plus lointains et plus limités. Mais sur le Tchad, pour prendre un exemple très concret et très récent, le président de la République est allé soutenir Idriss Déby, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un fervent démocrate et qui vient d'être lui aussi. Il vient de passer 22 ans au pouvoir et qui vient d'être reconduit. Donc, il pourrait aussi être accusé d'avoir un double discours. Donc la question est, en matière diplomatique, est-ce qu'on peut adopter a priori des positions de principe ou est-ce qu'on compose avec les rapports de force ?
Mais est-ce qu'en étant à ce point neutre dans le communiqué, alors notamment du Quai d'Orsay, l'Élysée pour l'instant ne parle pas. Alors on fait parler l'entourage, mais pour l'instant Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé, Feriel Lalami Fattès. Est-ce que en rester neutre, ça ne revient pas à dire qu'on soutient le régime en place? Est-ce que ça ne revient pas à ça, en tout cas?
Mais c'est la réalité. La France, l'État français, l'État algérien entretiennent d'excellentes relations sur tous les plans. De plus, tous les gestes qu'ont fait les différents dirigeants français, les différents chefs d'État français par rapport à une question qui tient à cœur non seulement aux dirigeants, mais au peuple algérien, je veux parler de l'histoire, ont permis de pas d'harmoniser, mais de mettre du calme dans une relation qui était souvent tourmentée. Mais sur les autres plans, le plan économique, il y a de très bonnes relations, même si la France a perdu sa place privilégiée d'il y a quelques années. Au plan sécuritaire, il y a des relations sans doute qu'on ne connaît pas toutes, mais qui sont étroites. Les relations diplomatiques également, même si certains dossiers peuvent fâcher. Donc, ce soutien est une réalité, ce soutien au régime algérien.
Mais est-ce que vous diriez du coup...
L'inquiétude vient de là, je pense. Moi, je préfère parler de régime que de parler de Bouteflika, parce que, bien évidemment, la personne de Bouteflika n'est plus en mesure de gouverner, on le sait. Donc il y a un régime qui est composé de multiples forces et ça, les dirigeants français le savent bien.
Est-ce que vous êtes d'accord déjà, Jean-Pierre Sereny, avec l'analyse de Feriel Lalami Fattès sur ce soutien qui est assez large? Est-ce que, question subsidiaire, on peut se dire que la France a davantage intérêt aujourd'hui à ce que le régime algérien ne change pas, qu'il y ait de la stabilité, plutôt à ce qu'il y ait de l'instabilité avec un régime dont on ne sait pas ce qu'il pourrait donner?
Moi, je ne parlerai pas davantage, je parlerai plutôt de risque. C'est sûr que la situation algérienne est une situation qui présente de nombreux risques pour la France. Mais en particulier, on ne peut pas dire que sur le plan économique, par exemple, les choses vont très bien entre les deux pays. La France est maintenant deuxième en termes de fournisseurs derrière la Chine. Elle est troisième derrière l'Italie et l'Espagne en termes de clientèle. Donc, si vous voulez, il y a un recul des intérêts français, mais surtout, il y a un grand péril, enfin, en tout cas, tel qu'il est vécu par les autorités, c'est que les troubles en Algérie amènent une vague de population qui émigre. C'est ça la question fondamentale. Et bien évidemment, Paris ne peut qu'être très prudent sur toute initiative qui faciliterait ce genre de déstabilisation.
Est-ce que c'est une inquiétude qui vous semble pertinente ?
Bah écoutez, c'est difficile à dire, mais en tout cas, elle est réaliste. Parce qu'effectivement, quand il y a eu des périodes difficiles dans l'histoire des deux pays, et en particulier en Algérie, on a constaté qu'il y avait des mouvements importants. Ça a été vrai en 62, après l'indépendance. Ça a été vrai en 90, 2000, pendant la période de la décennie noire. Donc on peut penser que les choses peuvent se répéter. Mais en tout cas, on n'en est pas là pour l'instant.
La tête de liste du Rassemblement national aux prochaines européennes, Jordan Bardella, évoque le risque d'une submersion migratoire sans précédent. Si l'Algérie venait à être davantage déstabilisée, Kader Abderrahim.
Oui, c'est le vieil épouvantail. Je crois que le chiffre de migration entre 1990 et 2000, c'est 700 000 Algériens qui ont quitté leur pays pour s'installer en France dans un premier temps. Ça fait à peu près 70 000 par an, ce qui est très en deçà des flux migratoires traditionnels. Primo. Secondo, ça c'est très précis, hein, ce sont les chiffres de l'OMI. Deuxièmement, sur les 70 000, on estime qu'il y en a à peu près un tiers qui ne reste pas en France. Alors, notamment dans ce que vient de dire Jean-Pierre Sérigny, dans les années 90-2000, hein, pendant la guerre fratricide, on a assisté à une immigration de qualité, c'est-à-dire des gens qui avaient les moyens ou la possibilité de choisir le pays d'accueil. C'était le cas notamment dans le Golfe ou beaucoup au Canada, où aujourd'hui existe une importante diaspora algérienne. Donc le risque, l'épouvantail qu'on agite très régulièrement à tort et à travers, n'est pas justifié. Il n'y aura pas massivement d'immigration ou de fuite d'Algériens qui viendraient tout d'un coup vers la France. Je crois que cette hypothèse-là n'est pas à l'ordre du jour dans la situation actuelle. Si le pays s'effondre totalement, on sera dans une situation différente. Mais si nous parlons aujourd'hui dans un temps H, ce n'est pas à l'ordre du jour et ça n'est pas pertinent. Ça ne fait juste que agiter des épouvantails qui sont, de mon point de vue, à des usages internes et politiques.
Même si par ailleurs, la demande d'immigration est une demande qui reste importante demande de visa. Alors, demande de visa. Vous avez raison d'insister sur cette nuance, Kader Abderrahim. C'était en tout cas au cœur de la visite qu'avait effectuée, il était devenu président de la République, Emmanuel Macron en Algérie en décembre 2017, avec donc cette question des visas qui était centrale dans son déplacement.
Je souhaite que, pour celles et ceux qui travaillent ou qui sont en apprentissage, nous puissions là aussi avoir un système de visa beaucoup plus simple, qui permettent plus facilement d'obtenir un visa pour aller travailler de part et d'autre de la Méditerranée et pour pouvoir être rémunéré dans le cadre de ce travail. Là, aujourd'hui, il y a trop de complexité pour des visas qui devraient être octroyés beaucoup plus simplement à des jeunes ou des moins jeunes. Nous devons donc simplifier, dépassionner ce sujet. J'ai vu ce matin trop de jeunes qui m'ont simplement demandé un visa. Un visa, ça n'est pas un projet de vie. Un projet de vie, c'est d'avoir une formation, d'essayer d'avoir un travail, de réussir sa vie, d'avoir une famille. Et donc, je souhaite que ce soit sur cette base, repensée, rénovée, plus pragmatique et sans doute dépassionnée, que nous construisions ensemble les choses.
Voilà, Emmanuel Macron à Alger en décembre 2017. Feriel Lalami Fattès, cette question du risque migratoire, disons, appelons-le comme ça, par rapport à la déstabilisation du pays.
Alors, on peut être aussi optimiste. Imaginez une transition démocratique, y compris dans le cadre offert par le régime, qui sera limité. Mais il sera limité de leur point de vue. Mais on peut imaginer une pression de la rue, parce que effectivement. Vous l'avez dit, Kader Abderrahim, il y a eu des expériences de conférences nationales desquelles ne sont pas sorties grand-chose, ou des candidats du régime. Mais avec l'état de mobilisation actuel, on peut supposer, et qui n'est pas une écume soudainement apparue sur une vague, c'est en fait un mouvement de fond qui vient de mouvements de contestation multiples, grève, sit-in, émeute, très organisée. Parce qu'on se dit, ah tiens, les Algériens et les Algériennes se réveillent. Non, c'est faux. Ils n'ont pas arrêté de lutter. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont coalisé leurs forces pour manifester dans la rue pour refuser un cinquième mandat. Donc, cette population-là, et en particulier les jeunes, si on leur offre des perspectives politiques plus optimiste que celle de d'être dans un régime figé où le statu quo se reproduit, où la corruption règne, etc. Je suis persuadée, c'est pas une vue de l'esprit, mais je suis persuadée que ces jeunes-là seront plus intéressés à reconstruire leur environnement, leur projet professionnel, leur projet culturel, leur projet environnemental, que de s'exiler avec toute la douleur que ça peut représenter pour une personne.
Alors je rappelle la question que nous posons ce soir. La France a-t-elle son mot à dire sur l'Algérie? Nous en discutons avec la sociologue Feriel Lalami Fattès, le politologue Kader Abderrahim et le journaliste Jean-Pierre Séréni. Jean-Pierre Séréni, l'Algérie et les Algériens qui manifestent dans leur pays, mais ils manifestent aussi en France. Ça a été le cas ce week-end, notamment à Paris, mais pas seulement. Ils étaient très nombreux hier, place de la République. La diaspora algérienne, c'est un élément à prendre en compte, là aussi, dans le positionnement que peut avoir la France. C'est-à-dire que c'est là aussi que c'est compliqué. Il n'y a pas seulement le passé colonial, mais il y a aussi cette population importante qui se trouve en France aujourd'hui et qui se trouve dans la rue. Alors, elle n'est pas entièrement, parce que je crois que c'est un peu plus de 800 000 personnes, la population algérienne, sans compter ceux qui sont d'origine. Hein. Mais ça fait quand même une population importante.
Oui, mais hier, sur la place de la République, il y avait à peu près 6 000 personnes. Et on a fait, à Orient 21, un petit reportage sur cette foule. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens étaient tout à fait déterminés et clairs dans leurs revendications. Et par contre, la veille, le samedi, il y avait eu une manifestation en faveur de Bouteflika qui réunissait quelques dizaines de personnes et il y avait autour plusieurs centaines de personnes qui les insultaient. Donc, si vous voulez, la diaspora, c'est un élément qui fait que l'indifférence est une position difficile à tenir pour le gouvernement français.
C'est une diaspora qui est organisée politiquement et qui peut peser politiquement, justement, dans cette crise.
Si vous voulez, la grande différence avec les périodes historiques d'avant 62, c'est qu'à l'époque, la diaspora a été organisée et que Paris a toujours été un point central d'avant-garde pour les luttes politiques en Algérie. Là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'organisation, mais il y a quand même un sentiment, il y a quand même une opinion qui s'exprime, qui pèse et qui joue un rôle dans ce qui se passe en Algérie, parce qu'évidemment, c'est un effet de reflet, de reprise, qui ne peut qu'accentuer ce qui se passe en Algérie. Donc ça, c'est un peu le soft power de la France dans l'affaire algérienne.
Alors, Feriel Lalami Fattès et ensuite Kader Abderrahim.
Oui, à propos de cette manifestation, justement, et en rapport avec le sujet qui nous occupe ce soir. Et c'est parfaitement étonnant, justement, que les manifestantes et les manifestants présents en place de la République n'aient pas eu un seul slogan pour demander que la France, par exemple, prenne position. Moi, ce que j'ai entendu, puisque j'y étais, j'ai relevé que les slogans étaient vraiment les mêmes que ceux qui se scandaient dans les rues en Algérie. Vraiment tout, même les airs chantés, les revendications. Je n'ai pas entendu une seule fois la demande d'une exigence qui aurait pu s'exprimer, parce que parmi les manifestants, il y a des gens qui sont français. Je veux dire, ils sont binationaux, mais ils sont français. Ils auraient pu se considérer légitimes pour demander que leur État prenne une position de soutien aux revendications de la rue algérienne.
Et bien, comment vous l'expliquez, ça?
Eh bien, je pense que tout le monde est dans cette compréhension qu'il vaut mieux que l'État français, dans son expression, soit neutre.
Kader Abderrahim?
Oui, moi aussi j'étais hier, je suis passé à la place de la République et bon, ça c'est la génération Internet, hein. Donc ça circule beaucoup plus facilement sans doute, il y a des échanges qui sont beaucoup plus nombreux. Moi j'ai relevé quelques slogans, c'est assez créatif, former des cadres ce n'est pas être gouverné par un cadre. Ça fait allusion au fait que on rend hommage au portrait officiel du président Bouteflika, puisque physiquement, plus personne ne peut le voir. J'ai relevé également un autre slogan assez cocasse, non au djinn, oui à un président qui parle. Le djinn, c'est une créature surnaturelle que personne ne voit et que personne n'entend. Donc on est là dans une culture populaire, qui est aussi matinée d'une grande modernité, hein, cette génération 2.0, 3.0, je ne sais plus où on en est aujourd'hui, et qui prouve que au-delà des océans ou des mers, pour ce qui concerne l'Algérie, l'information circule aujourd'hui d'une manière différente. Pour autant, je crois que ça va très vite atteindre ses limites parce qu'il faut que ce mouvement se structure, s'organise, se donne des figures et des porte-paroles pour pouvoir éventuellement incarner, ce sera pas pour tout de suite, mais incarner une alternative populaire, politique. Pour le moment, on est loin de cette perspective.
Et sur ce que relevait Feriel Lalami Fatet, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de demande exprimée d'un soutien, alors plus ou moins explicite, de la France à l'égard de ceux qui manifestent. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Je le comprends, je l'analyse comme une forme de maturité en réalité, parce que ça prouve que on comprend que les problèmes sont là où ils sont, c'est-à-dire en Algérie, avec le personnel politique qui depuis longtemps a fait l'illustration de ses limites et de son incompétence peut-être aussi, et que par conséquent, c'est là-bas que se trouve la clé et la solution. On ne peut pas demander aux autres de faire ce que nous ne parvenons pas à faire. Donc je crois que, en tout cas moi je le lis comme une forme de maturité. Peut-être que les choses évolueront et qu'on demandera peut-être davantage au gouvernement français. Mais pour le moment, cette idée, ce slogan simple, non au cinquième mandat, et puis de plus en plus on entend aussi ce rejet du régime, hein. Au-delà du cinquième mandat, il y a aussi une volonté de changer de système politique.
Est-ce que c'est de la maturité ou est-ce que c'est pas aussi l'effet d'un travail de fond sur les esprits, tel que le relève par exemple Boualem Sansal, écrivain algérien connu dans le Figaro, sur l'éternelle culpabilité de la France par rapport à l'Algérie, et qui dit ceci, que le FLN et le pouvoir, à force de rengaine et d'incantation, ont fait une religion obligatoire de cette culpabilité, enseignée à l'école, imposée dans la vie quotidienne. Et un autre écrivain célèbre, Kamel Daoud, toujours dans le Figaro, qui lui explique que la génération actuelle, alors en Algérie, en fait une reconstitution fantasmée compensatoire. Les jeunes de 17 ans, dit-il, parle de la colonisation avec une haine que même mon père qui a vécu cette période n'adopte pas. Jean-Pierre Sereni.
C'est vrai que le French bashing fait partie des traditions politiques algériennes, mais il faut quand même bien voir qu'avec le temps, ça s'est atténué. C'est sûr qu'il y a encore une partie de la population, les plus anciens, qui pensent ou croient que c'est Paris qui tire les ficelles, mais franchement, c'est un peu daté et c'est un peu démodé. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la situation objectif de l'Algérie aujourd'hui est quand même assez mauvaise. Il y a à la fois une production pétrolière qui baisse depuis 2006 et en 2018, les prix ont augmenté de 35%, mais les exportations algériennes ont augmenté que de 15%. La différence, c'est le fait que la production et les exportations baissent et que d'autre part, il y a un problème budgétaire considérable parce que pour l'instant, on n'a pas réduit les dépenses, que l'épargne locale ne peut pas financer ses dépenses et que donc on fait marcher la planche à billets. Alors ça, c'est des politiques et des situations qui ne peuvent pas durer très longtemps. Et en gros, qu'il y ait cinquième mandat ou pas, l'échéance est 2021-2022. Donc là, si vous voulez, il y a un vrai problème. Et là, effectivement, la France pourrait jouer un rôle en aidant l'Algérie.
Kader Abderrahim, est-ce qu'on pourrait dire que du point de vue du régime algérien, il y a peut-être une forme d'attente dans le fait que la France s'exprime à un moment donné pour pouvoir justement utiliser cette idée qu'il y a le parti de l'étranger qui s'exprime et ce qui permettrait de renforcer, en tout cas de reprendre cette espèce de rengaine sur lequel finalement le pouvoir algérien assoit sa légitimité, c'est-à-dire celui d'avoir été le pouvoir qui a vaincu la France, qui a gagné la guerre de décolonisation.
Mais ça marche plus en Algérie.
Ça
les
marche
Algériens
plus du tout,
sont
ça.
Très lucides, ça ne fonctionne plus.
Abdelaziz Bouteflika, il vient de là quand même.
Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, dans les sociétés modernes, on ne peut plus dire que la légitimité est issue de l'histoire. La légitimité, elle est issue des urnes, point. Or, les Algériens, ils connaissent leur société, ils connaissent leur personnel politique, ils les voient jour après jour et ils voient quel est leur comportement, les richesses amassées indûment, la corruption qui a atteint des summums et les comportements individuels. J'ai lu l'autre jour dans un journal arabophone qu'il y a un candidat un peu farfelu à l'élection présidentielle qui a annoncé qu'il avait pu acheter beaucoup de logements sociaux, mais que si lui était élu à l'élection présidentielle, finalement, il n'en garderait qu'un pour lui. Donc vous voyez, ça donne une idée de la manière dont on fonctionne à front renversé. Alors évidemment, c'est excessif et un peu farfelu, mais malgré tout, cette idée de la corruption est enracinée dans la société parce qu'elle est perçue comme une prestation de service puisque l'État est défaillant. Donc, moi, je dois compenser. Et comment compenser pour obtenir ce qui est au départ un droit ? Eh bien, par la corruption. C'est aussi devenu, je caricature à peine, une culture dans la société. Donc tout le monde est malade, à la fois le système politique, le régime, en tout cas ceux qui incarnent ce régime, et également cette société qui aujourd'hui ne sait plus à quel sein se vouer. Et je crois que s'il doit y avoir une transition pacifique, elle se fera avec tout cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'alternative politique crédible, je pense qu'il faudra procéder par étapes. Mais l'histoire, certes, est importante. C'est une mémoire collective. Personne n'en est détenteur sur le plan individuel. Et l'instrumentalisation qui en a été faite depuis maintenant presque 60 ans ne fonctionne plus. Les Algériens ne sont pas dupes. D'ailleurs, ils n'y font pas référence dans toutes les manifestations qu'on voit et qu'on entend depuis maintenant 3 semaines. Personne ne fait référence à cela. Et à Paris, d'ailleurs, on n'a pas non plus parlé de cela. C'est assez intéressant. Et donc, on peut relever que de part et d'autre de la Méditerranée, chacun, je crois, a mûri sur cette question-là. C'est important également à relever.
Feriel Alami Fattes.
Ben justement, les jeunes en particulier, ils ont à présent leur propre histoire, puisque on peut relever leur culture politique à travers les slogans qui se sont exprimés. Par exemple, ils ont rappelé, il y a un slogan, les martyrs de Bab el-Oued. Ça fait référence au soulèvement d'octobre 88, où il y a eu des jeunes assassinés. Et ça revenait. Ça veut dire, nous, on a aussi notre propre légitimité. Et un slogan dont je ne sais pas s'ils savent que c'est un slogan historique de la lutte de libération nationale, un seul héros, le peuple, est récupéré, mais en fait, comme une demande de souveraineté qui serait celle de récupérer le pouvoir. Le pouvoir qu'il soit, comme ils l'ont dit, qu'il soit celui d'un Algérien citoyen, un Algérien qui vit dans une Algérie, ça c'était aussi un autre slogan. L'Algérie est une république, pas un royaume. Sous-entendu, vous n'allez pas faire une dynastie d'un régime qui devrait être démocratique, selon la Constitution. Et donc, effectivement, ces jeunes-là ont eu leurs propres slogans qui sont construits d'abord autour du fait qu'ils sont sortis en disant on n'a pas peur, on veut pas de Bouteflika, on n'a pas peur, on a peur ni des forces de police ni des forces spéciales, etc. La demande de souveraineté populaire à travers des institutions représentatives et la chute du régime. Et là, certains en Algérie, et comme Place de la République, j'ai dit c'était à peu près les mêmes slogans, demandaient la chute du régime, du système. Ils disent du système, en fait. Ils disent pas le régime, ils disent « nizam » en arabe, ça veut dire le système. Et c'était des slogans dans la rue tunisienne, égyptienne, etc. En 2011 et l'année suivante.
Kader Abderrahim, oui.
Pardon. Oui, moi je crois que c'est important parce que peut-être que la question qui se pose aujourd'hui pour cette nouvelle génération, c'est peut-être l'émergence d'une nouvelle conscience nationale avec des référents historiques qui sont seuls de leur époque et de leur temps et pas ceux qui font référence à la guerre de libération. Ça, c'est extrêmement important parce que ça va les enraciner dans une histoire qui est la leur, avec des préoccupations qui sont les leurs, et peut-être que ça peut faire émerger à la fois une nouvelle conscience nationale, mais peut-être aussi une conscience collective au sens politique cette fois. C'est-à-dire que cette mobilisation ne retombe pas comme un soufflet et que ça permette peut-être de construire un projet qui s'appuie sur un socle de valeurs communes.
Reste aussi à savoir là, où en est aujourd'hui peut-être l'émergence de cette nouvelle conscience nationale. Et pour rester, ce sera une de mes toutes dernières questions par rapport à notre sujet de ce soir, l'attitude de la France par rapport à l'Algérie. Est-ce que cette prudence qui vaut soutien implicite, en tout cas au régime actuel, n'est pas aussi liée à une forme de pragmatisme ? Je vous citerai simplement un article de l'Obs qui cite une source à l'Élysée, source anonyme, qui dit ceci, notamment, nous sommes en train d'affiner notre analyse, mais une chose est claire, Bouteflika reste une figure populaire. et le FLN demeure un mouvement politique puissant. Il a une certaine assise, un soutien populaire réel. Est-ce que Paris, Jean-Pierre Serini, n'est pas également prudent en se disant que Bouteflika et le régime qu'il soutient ne sont pas totalement, comment dire, finis du point de vue de l'adhésion qu'ils peuvent susciter au sein de la population algérienne?
Alors, si les informations de l'Observateur sont confirmées, et si effectivement c'est ce que pensent les personnes spécialisées de l'Élysée sur cette question, c'est un peu inquiétant. Mmh. Parce que pour l'instant, on est dans un moment qui est un moment où on a d'un côté une population qui réclame le départ de Bouteflika, et de l'autre côté, Bouteflika qui nous dit « je ne pars pas, mais le prochain mandat ne durera pas 5 ans, il durera peut-être 4 ans et demi ». Et donc là, on a une situation qui est temporaire, il va bien falloir que à un moment ou à un autre, l'un des deux s'incline, et c'est là qu'on peut s'inquiéter sur ce qui va se passer, comment ça va se passer, et s'il sera possible à la France de rester sur une attitude, disons, un peu hautaine.
Qu'est-ce qui ferait d'ailleurs que la France ne pourrait plus tenir cette position de neutralité? C'est si les manifestations dégénèrent, par exemple?
Évidemment, évidemment, si le sang coule, il est évident qu'à ce moment-là, les précautions diplomatiques ne seront plus de mise.
Kader Abderrahim?
Oui, là aussi, je suis très surpris par cette source anonyme citée par le Nouvel Obs.
Alors, on ne sait jamais très bien quand c'est une source de l'Élysée, on ne sait pas si c'est le porte-parole qui s'exprime de cette manière.
Mais en tout cas, faire référence au FLN en disant qu'il reste puissant, il a une clientèle, ça c'est indéniable, des milliers d'élus, des fonctionnaires qui doivent leur carrière, leur poste à ce vieux parti, l'un des plus vieux ou le plus vieux en Algérie. Mais quand on regarde aujourd'hui la sociologie des mobilisations, aucune ville en Algérie et aucune wilaya n'est épargnée, y compris dans les zones qui sont très largement, depuis l'indépendance, des soutiens traditionnels au régime, comme les zones sahariennes, Ouargla, Tamen Rasset, Gherdaya, Ilizi, Ain Salah, Tindouf. Il y a eu des petites manifestations à Tindouf, qui est un enjeu sécuritaire, puisque c'est une ville frontalière du Maroc. Toutes ces villes, ou des Touaregs par exemple, ça pose quand même des questions. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, des plaques qui sont en train de bouger, et on ne peut pas dire de manière aussi catégorique, aussi péremptoire, que le FLN reste puissant. Le FLN reste un acteur, précisément parce qu'il a une clientèle et que ça lui permet de constituer, de conserver un maillage sur l'ensemble du territoire, mais il n'est plus le parti influent qu'il a pu être jusqu'en 1989.
Sans être le parti influent qu'il a pu être, et ce sera ma toute dernière question, Feriel Alami Fatès, c'est ce qu'on peut dire qu'en tout cas, aujourd'hui, une transition qui écarterait totalement le FLN et ceux qui appartiennent au régime paraît aussi compliqué que le fait qu'ils se maintiennent tel quel au pouvoir?
Non, bien sûr, la transition, ce sera une négociation. Elle se fera autour d'une table, bien entendu, avec toutes les forces politiques, y compris, bien sûr, les soutiens au régime. Il n'y a pas que le FLN, il y a aussi le Rassemblement National Démocratique, un autre parti qui a aussi son personnel. Et bien sûr, avec un autre acteur très important, c'est la rue, la pression de la rue et de toute, c'est-à-dire bien sûr, on imagine que les associations de la société civile, les syndicats autonomes, etc., tous ceux qui aujourd'hui sont marginalisés par le régime seront invités à la table, mais disons que le changement le plus avancé n'arrivera que s'il y a une pression soutenue de la rue. Et c'est ce qui semble commencer à s'organiser, puisque dès la décision, dans les lieux, dans les universités, les lieux de travail et même dans les rues, se sont organisés des lieux de discussion, de débat autour du futur politique de l'Algérie. C'est plein de promesses.
Voilà, il va de soi que c'est une situation qu'on va continuer à examiner de près. Merci beaucoup à tous les trois, Feriel Alami Fatès, Jean-Pierre Serini et Kader Abderrahim. Cette discussion, vous pourrez la retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Vous pourrez télécharger l'émission, nous écrire et voir d'ici quelques heures, demain matin, des extraits vidéo. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Camille Fouchard, Léa Capuano, Antoine Dulster, Cyril Marchand, émission réalisée par Peyré Legras avec à la prise de son Alexandre Dang.